September 11th, 2001.
Another plane hit the other tower at the World Trade Center.
Today we've had a national tragedy. Justice will be done.
France Inter.
En septembre, ces attentats qui ont changé le monde.
Le 18-20.
Le 11 septembre 2001 avait lieu aux États-Unis l'attentat terroriste le plus meurtrier jamais commis, le plus lourd, le plus spectaculaire dans la pleine définition de ce mot, c'est-à-dire qui parle aux yeux aussi parce que c'est sur ces images que s'est ouvert le 21e siècle. 11 septembre 2021 ou presque, nous y sommes, les États-Unis en Afghanistan et dans un fracas d'images aussi, nous y reviendrons, ont mis fin à la guerre la plus longue de leur histoire. 20 ans ou presque, qui nous amène aussi vers le 13 novembre et le procès qui commence demain. Alors, nous allons regarder le monde aujourd'hui et tenter de comprendre en quoi et si il est façonné par le 11 septembre, en quoi et si la géopolitique aujourd'hui est une géopolitique post-11 septembre. 20 ans, c'est aussi l'état du terrorisme aujourd'hui, de Ben Laden jusqu'à Daesh, les mutations, les menaces, les nouveaux fronts terroristes qui se sont ouverts, en Afrique notamment, et pas seulement. Nous sommes bien placés pour savoir où ces mutations, encore une fois, peuvent mener. De tout cela, on en discute avec nos invités, avec des reportages, et tout à l'heure, en deuxième heure, je vous le dis tout de suite, j'aurai l'occasion de vous le rappeler, ce sera à vous de poser vos questions à nos invités. Le sujet est bien vaste, on a 2 heures devant nous, bonsoir.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
A C-17 taking the last American boots off Afghan ground. The end of America's longest war, celebrated in Kabul with live ammunition blasted into the sky.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals and vulnerable Afghans.
Un extrait d'un reportage fait par CNN avec cette image, là aussi devenu iconique déjà, ce soldat dans la nuit à la lumière verte, le dernier à marcher sur le sol afghan, et l'incroyable ironie donc de l'histoire qui nous replace exactement au même endroit 20 ans après. Évidemment, on ira beaucoup en Afghanistan au cours de cette heure et la suivante aussi. D'ailleurs, bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en géopolitique, vous êtes professeur de relations internationales à la Paris School of Business, vous êtes aussi maître de conférences à Sciences Po. Votre dernier ouvrage qui sort après-demain d'ailleurs s'appelle Atlas des frontières, retour des fronts et sort des murs, c'est chez Autrement. Et bonsoir à vous Jean-Marc Fourosi.
Bonsoir à tous.
Directeur de la rédaction internationale de Radio France. Pardon pour la question extrêmement ouverte pour commencer, Frédéric Ancel. Moi, je me demandais en fait jusqu'à quel point la matrice du monde tel qu'on le connaît en ce moment, c'était le 11 septembre. Est-ce que c'est là que les choses basculent ou est-ce que le 11 septembre a rendu possible précisément parce que la bascule avait déjà eu lieu ce qui s'est passé et ce qu'on voit encore aujourd'hui se prolonger?
Je dirais que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que le 11 septembre a accélérer peut-être un phénomène, celui consistant pour les États-Unis à vouloir revenir dans les affaires du monde et revenir de manière extrêmement proactive, voire un peu mystique, hein, puisqu'évidemment, après le 11 septembre, c'est l'aventure irakienne. Hein. D'abord, c'est l'Afghanistan, qui n'était pas illégitime d'ailleurs, hein, qui était validé par l'ONU, il y a 20 ans presque jour pour jour, et puis l'Irak, où là, évidemment, c'était beaucoup plus compliqué. Mais je ne vous parlerai que d'accélération, et je nuancerai ce côté très très fondamental qu'on donne au 11 septembre. D'abord, c'est pas le premier attentat quand même. Hein. Alors sur le sol américain, certes, et c'est la première fois que les Américains sont touchés de manière aussi violente, c'est vrai. Après, les acteurs, écoutez, l'islamisme radical, on pourrait remonter au 18e, aux frères musulmans en 1928. Donc je vous dirais que là, il n'y a pas grand-chose de très très nouveau. Et puis surtout, vous dites, à juste titre, que c'est un retour par une forme d'ironie d'histoire. Ce soldat américain qui quitte l'Afghanistan de manière assez piteuse, 20 ans, presque jour pour jour, après le 11 septembre. Mais pardon, c'est Joe Biden qui a décidé de cette date. Ce sont les Américains qui ont mis en scène précisément ce qui devait être la fermeture d'une parenthèse. Et je vous dirais par ailleurs, et je le dis en un mot, qu'il y a, mais je pense qu'on va y revenir, là on a eu affaire à un retrait simplement tactique qui s'inscrit dans ce que voulait déjà Barack Obama dans son fameux pivot il y a une douzaine d'années, donc retrait 2009, dans une certaine mesure, voilà, de Syrie, d'Irak, même d'ailleurs d'Europe avec l'Allemagne et Trump, là maintenant retrait d'Afghanistan, retrait simplement tactique, vous dis-je, parce que on assiste à un redéploiement stratégique américain dans l'Indo-Pacifique. Et l'Indo-Pacifique avec en ligne de mire la Chine, mais je vais vous dire, c'est beaucoup plus sérieux d'un point de vue géopolitique que d'aller courir après des gueux en Afghanistan.
Est-ce que c'est, au fond, quand on parlait de boucler la boucle, est-ce qu'on dit que, bon bah très bien, cette image-là, le fameux soldat vert, c'est la dernière image du 11 septembre, en fait. On peut tourner cette page à ce moment-là, et presque, il y a même des gens qui ont pu l'écrire, les morts sur l'attentat, à cause de l'attentat attentats de l'État islamique sur Kaboul sont presque les derniers morts du 11 septembre. C'est aussi comme ça que se boucle cette boucle. Et comme vous dites, ce sont les Américains qui l'ont voulu. Ils l'ont pas forcément voulu comme ça.
Non, ça c'est juste. En tout cas, ils ont pas voulu sortir comme ça. Mais vous savez, les Américains, en 3 semaines, ils avaient gagné. Les talibans étaient par terre. Et quelques années plus tard, Oussama Ben Laden, on se souvient de ces fameuses images, sous la supervision de Barack Obama, il passait dans un autre monde. Après, c'est effectivement... D'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, c'est toujours un petit peu la même chose, que ce soit dans une certaine mesure, peut-être l'Indochine encore, c'était un cas un peu à part pour la France, mais en tout cas, l'Algérie, là aussi, c'est un cas à part, mais chaque cas est différent. Le Vietnam et maintenant l'Afghanistan, au fond, le plus difficile, c'est pas d'y aller. Mmh. Et c'est même pas de vaincre dans un premier temps, c'est évidemment de sortir. Mais encore une fois, je replacerai les choses peut-être dans un temps long, cher à Fernand Braudel. C'est-à-dire que là, on est tous dans un temps symbolique, journalistique et émotif. Sur des temps plus longs, oui, vous avez raison, je pense qu'on a assisté peut-être au dernier mort, entre guillemets, du 11 septembre. Mais encore une fois, je nuancerai l'échec américain. L'échec, c'est celui d'un retrait qui s'est fait de manière piteuse avec des renseignements calamiteux, qui ont prévenu Joe Biden qu'ils avaient au moins encore 6 mois derrière eux avec cette armée afghane qui en fait n'était pas debout, mais on assiste à un redéploiement stratégique.
Et c'est intéressant que vous disiez renseignement calamiteux, là aussi on a l'impression de boucler la boucle quand même, le 11 septembre a aussi commencé sur une histoire de renseignement calamiteux. Est-ce que vous diriez, parce que effectivement ça boucle aussi cette boucle là Jean-Marc Four, en gros on a l'impression que la réalité s'est vengée, c'est un terme que j'ai volé à Alain Frachon dans Le Monde, figurez-vous, qui dit bon bah oui évidemment, vous le disiez, sortir c'est beaucoup plus difficile que rentrer, et ce qui est surtout difficile c'est de comprendre les complexités, comprendre les diversités de ce pays-là, et c'est là que la réalité s'est vengée.
Mais la question qu'on peut se poser, celle que soulevait Frédéric Ancel à l'instant en évoquant la question structurelle de la Chine, c'est est-ce qu'on n'est pas à la fin, pour le coup, d'un cycle où le paradigme de la guerre globale au terrorisme, c'était la formule de Bush, où ce paradigme a dominé finalement les relations internationales, c'était ce qui dictait beaucoup de décisions, en tout cas en termes d'affichage, est-ce qu'on n'est pas au bout de ce cycle, et est-ce que ne s'ouvre pas un cycle où c'est un autre paradigme qui va guider la plupart des choix? Ça peut être la Chine, ça peut être les préoccupations climatiques, il peut y avoir un autre paradigme qui se met à supplanter ce qui dictait un petit peu tout, c'est-à-dire cette guerre au terrorisme.
Et alors, ça veut dire que le contre-terrorisme effectivement est plus l'alpha et l'oméga de la politique américaine, mais peut-être pas seulement. Mais du coup, on peut pas s'empêcher de se poser la question, et si? Qu'est-ce qui se passe, et si? Alors désormais, ça ressemble à quoi maintenant, une opération américaine, si d'aventure, et on espère que ça ne se produira jamais, un attentat, quelle qu'en soit l'ampleur, en fait, se produisait à nouveau. C'est quoi l'intervention américaine désormais? Comment ça marche?
Ah, moi, je suis tout à fait convaincu que ça ne marchera plus ou quasiment plus avec l'envoi massif de troupes au sol. Fondamentalement, les démocraties occidentales, mais plus seulement d'ailleurs, par exemple, on n'a pas vu beaucoup de soldats russes crapahuter en Syrie. On n'a jamais vu de soldats chinois hors des frontières de Chine depuis 79 face au Vietnam. Mais en tout cas, dans les démocraties occidentales, on ne veut plus payer le prix de soldats qui tombent et qui reviennent dans des cercueils sous des drapeaux sur des tarmacs. Ça, on ne le veut plus. Par conséquent, les Américains sont en train de développer, et d'ailleurs avec beaucoup d'autres pays, alors évidemment, les fameux drones qui sont vraiment, on est jusqu'au bout de la logique, mais une des aviations extrêmement à très longue portée, avec aussi des actions commando, on les a vues à l'œuvre très récemment en Iran notamment, et pour éviter trop de victimes parce que les opinions publiques ne le supportent plus. En revanche, encore une fois, les États-Unis gardent le bras extrêmement long pour frapper ici ou là des ennemis potentiels.
On va aller très vite chez nos voisins immédiats en Irak, que vous avez déjà évoqué tout à l'heure, on ira aussi au Mali au cours de cette émission, mais c'est difficile de ne pas faire un aller-retour d'abord par les États-Unis justement, qui vont rester évidemment en filigrane. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous.
Et c'est vrai qu'on parle plus de reddition, de désengagement. Frédéric Ancel nous a expliqué, lui, de son point de vue, à quoi les choses ressemblaient. Est-ce qu'on a fait une forme d'ajorniamiento quand même aux États-Unis, là maintenant, au bout d'une semaine ou une dizaine de jours? Est-ce qu'on s'est dit voilà ce qu'on a raté? Ou est-ce que maintenant, au bout de 10 jours, ça ne nous concerne plus, on ne nous y reprendra plus de toute façon? Et c'est ça l'état d'esprit.
Quel que soit le terme, reddition ou désengagement, on lit encore beaucoup ici, notamment de la bouche des militaires, encore en activité ou des vétérans, et en premier lieu bien sûr de ceux qui sont allés en Afghanistan. Pour beaucoup de ces soldats, il y a clairement un regret, un sentiment de gâchis. On lit des témoignages partout dans la presse ici, pas tous anonymes d'ailleurs, d'ex-militaires blessés par exemple, ou de proches qui disent « j'ai perdu ma jambe ou mon fils, pardon pour le raccourci, dans cette guerre de 20 ans, on s'en va, 2 semaines après c'est le retour à la case départ, les talibans sont de nouveau au pouvoir ». voir, comme si tout ce qu'on a fait et tous les soldats qu'on a perdus, ça n'avait servi à rien. Ça, c'est la musique qui est là, pas seulement dans les médias anti-Biden hein, ou pro-républicains, également dans les journaux beaucoup plus objectifs. 2001-2021, vous l'avez rappelé, plus longue guerre de l'Amérique. Biden a plusieurs fois utilisé cette expression encore récemment pour justifier d'y mettre un terme, mardi dernier. Il faut se rappeler que c'est une guerre qui promettait la victoire de la paix, de la liberté dans la bouche de Bush, moins d'un mois après le 11 septembre. En fait, victoire, pas sûr du tout qu'on ait la paix et la liberté à Kaboul. Et puis les Américains ont perdu là-bas près de 2500 militaires, 20 000 blessés, reddition ou désengagement. En tout cas, le débat existe ici.
Et en même temps, la fin de ce qu'on a appelé le nation building, c'est-à-dire cette idée qu'on allait quelque part et puis on pourrait non seulement tout rebâtir, mais y implanter la démocratie, etc. Quand on se rend compte que tout ça est fini et bien fini, est-ce que du côté des Américains, là encore, on se dit la stratégie qu'on a employée n'était pas la bonne, quand même?
Ah bah forcément, on se dit que là, rappelez-vous ce qu'il y a dans le rapport de la commission sur le 11 septembre qui nous dit qu'il faut offrir un exemple de leadership moral dans le monde. On parle de valeurs très belles, hein. J'essaie de m'en souvenir, la règle de droit, être généreux, attentionné envers nos voisins. En fait, de ça, ça a été que tromperie, brutalité, arrogance, excès, négligence. On a brandi les muscles. Biden peut payer tout ça politiquement. Enfin, ce sera peut-être le sujet de votre discussion. Après,
on verra. Alors, effectivement, c'est dans 18 mois, ça dit, hein, les élections à mi-mandat. Ouais. On sait bien que les Américains votent rarement. Là-dessus, je me demandais, j'ai une question subsidiaire, Sébastien. On posera la question aussi à Frédéric Ancel. Est-ce qu'on en parle déjà chez vous, dans la presse notamment? Parce qu'à un moment, la question de la reconnaissance de l'Afghanistan gouverné par les talibans, elle va se poser. Est-ce qu'elle se pose et en quel terme?
Ça fait oui, là aussi ça fait débat. Il y a une partie des éditorialistes qui n'envisagent pas que Biden puisse reconnaître un gouvernement taliban qui a été annoncé d'ailleurs en grande partie ce soir, si je ne m'abuse.
Nettement moins inclusif qu'il en avait l'air, si je puis dire.
Oui, c'est ça. Il y a quand même moi ce qui me frappe, c'est par exemple Mark Milley, qui est le plus haut gradé, le plus haut général américain, qui dit tout simplement sur ce que Biden a fait, c'est-à-dire ce retrait qu'il avait effectivement annoncé, Frédéric Ancel l'a rappelé. Il dit Biden en gros a pris la pire décision de politique étrangère depuis qu'il est à la Maison Blanche, quoi. Il dit l'Afghanistan aux mains des talibans, ça veut dire potentiellement un terrorisme plus fort hors du pays, ça va fragiliser l'Amérique, la rendre moins sûre, avec potentiellement, pourquoi pas, sous-entendu, des attentats plus tard ici sur le sol américain. Il y a la question des réfugiés afghans, il y en a encore qui arrivent tous les jours à l'aéroport ici à Washington, et puis les critiques, les risques de démission, vous pourrez en parler aussi. On dit que Blink, que Jake Sullivan sont menacés. Donc ça va revenir, tout ça va revenir en débat au Congrès quand les sessions vont reprendre. C'est encore les vacances ici, mais nul doute qu'on va reparler de tout ça au Capitole.
Effet collatéral, si je puis dire, effet collatéral certain. On va aller au Pakistan. Je voudrais quand même vous reposer la question, Frédéric Ancel, la reconnaissance des talibans, y compris de ce gouvernement qui vient de tomber, qui ne ressemble absolument pas à ce que... Alors, soit provisoire hein, apparemment, mais à ce gouvernement inclusif dont les talibans avaient parlé, la reconnaissance de ce gouvernement, il va bien falloir, de la part des Américains, mais pas seulement, tout le monde autour, il va bien falloir qu'elle se fasse ou pas?
Oui, bien évidemment. D'abord, je rappelle que les Américains, par le truchement de Bill Clinton en 1996, n'ont pas accueilli si fraîchement que ça les talibans. Je rappelle qu'en 1996, ils sont arrivés au pouvoir quand même. Hein. Alors en 2001, on leur a fait la guerre, pourquoi? Pas parce qu'ils étaient toujours talibans.
Parce qu'ils hébergeaient Al-Qaïda.
Voilà, parce qu'ils hébergeaient Al-Qaïda. Maintenant, ils affirment ne plus héberger Al-Qaïda. Alors, on peut ne pas les croire sur parole. La vérité, c'est qu'on n'a pas tellement le choix. J'ajoute un point, me semble-t-il, important. Les Américains, en janvier dernier, ont discuté directement avec les talibans. Ils ont bypassé, pardon pour l'expression, le gouvernement afghan qu'ils armaient, qu'ils équipaient depuis des années. Et c'est pas tout. Avant Biden, c'est Trump qui a discuté directement avec les talibans. Donc ça, je pense qu'effectivement, ça va se faire. Juste un point très important sur ce que disait Jean-Marc Four. Oui, on change de paradigme du côté américain. La guerre contre le terrorisme est effectivement quelque chose comme une ânerie, parce que c'est
une guerre contre un concept. Une ânerie, c'est le terme que Villepin a utilisé sur France Inter avant-hier.
Bon, très bien. Cela dit, ce n'est pas exact pour la Russie, pour la Chine, pour l'Arabie Saoudite, pour plusieurs États proche-orientaux et africains qui ne cessent de lutter légitimement ou moins légitimement contre prétendument le terrorisme.
On est d'accord qu'ils ne sont pas isolé comme il l'était en 96. C'est en ça que la situation est différente. Et que deviennent justement les voisins autour? Premier voisin d'entre eux, le Pakistan, qui a toujours été le parrain officieux des talibans, celui qui a su aussi jouer double jeu, dont on n'oublie pas qu'il a une très large frontière avec l'Afghanistan. C'est là que commence le périple de Mathilde Dehémy et Laurent Maketti.
Le fort militaire domine toute la vallée afghane de Jalalabad.
Vous voyez ces montagnes, là où il y a du vert, c'est Jalalabad, et tout derrière Kaboul.
Les montagnes de Tora Bora ferment l'horizon juste au sud. C'est ici que la coalition internationale a failli capturer Ben Laden et détruit les camps d'Al-Qaïda juste après le 11 septembre. Désormais, l'armée pakistanaise tient à bien nous montrer que la frontière, 2600 km de long, n'est plus poreuse. Le commandant des gardes-frontières, Sajid Majid.
On a posé 98% de clôtures barbelées. On a des engins de surveillance, des caméras, des lunettes à vision nocturne. Aucune frontière n'est infranchissable, mais elle est aussi sûre que possible.
Le Pakistan a longtemps profité des fonds américains pour notamment sécuriser la zone, alors que dans le même temps, le pays accueillait les dirigeants talibans afghans chassés du pouvoir en 2001 et des membres d'Al-Qaïda. L'armée pakistanaise a finalement mené plusieurs opérations ces dernières années dans ces zones tribales, car le Pakistan a vu naître un nouveau groupe terroriste en 2007, le TTP, des talibans pakistanais, furieux d'être empêchés de combattre en Afghanistan. Leurs nombreux attentats contre l'armée et des civils, jusque dans la capitale Islamabad, ont fait des milliers de morts. Le commandant des gardes-frontières, Sajid Majid.
Le nombre d'attentats a diminué, mais il y a des attaques occasionnelles. Il y a deux jours, deux de nos soldats ont été tués à la frontière. Donc oui, ça existe encore, mais bien moins qu'avant.
Le groupe terroriste pakistanais TTP est stimulé par la victoire de leurs alliés talibans à Kaboul et revendique 32 attentats au Pakistan le mois dernier. Parmi les cibles des terroristes pakistanais, Hamid Mir, le journaliste de renommée internationale qui a interviewé plusieurs fois Ben Laden, a survécu à deux tentatives d'assassinat en 2012 et 2014. Hamid Mir est un spécialiste du terrorisme.
On n'avait jamais eu d'attentat suicide au Pakistan avant le 11 septembre. Jamais eu trop d'extrémisme avant le 11 septembre. Mais il y a eu beaucoup de civils tués dans des attaques de drones américains au Pakistan et ça a nourri l'extrémisme. Et la plus grande perte pour moi, c'est qu'à cause de la guerre contre le terrorisme, j'ai perdu ma liberté. Je n'ai plus le droit d'être journaliste. Donc ces 20 dernières années, le Parlement s'est affaibli, les médias se sont affaiblis, la justice s'est affaiblie. Les Américains ont mis la pression sur le pays pour qu'il fasse toujours plus. Alors ils ont créé des tribunaux militaires et renforcé les services de renseignement qui ont enlevé plein de défenseurs des droits au nom du terrorisme. Aujourd'hui, il y a donc des milliers de personnes disparues et ces disparitions forcées sont un gros problème au Pakistan. Tout ça à cause de la guerre contre le terrorisme.
Les artistes aussi sont touchés. Pression sur les peintres, chanteurs, assassinés par les talibans pakistanais dans les zones tribales. C'est en réalité tout le pays qui est confronté à cette radicalisation de la société, explique Jamal Shah, acteur et figure de la scène artistique pakistanaise.
La culture du cinéma n'existe plus au Pakistan, notamment dans les provinces Pashtun et du Baloutchistan. Il n'y a plus aucun cinéma. Le principal cinéma a été brûlé ici à Islamabad. Les musées sont là. Les gens y vont, mais dans l'ensemble, l'infrastructure culturelle a été détruite par les talibans pakistanais. Quand les choses deviennent difficiles, l'art devient intense. Les artistes se battent et défendent leurs droits. Leur travail est devenu plus pertinent.
Non loin du centre d'art de Jamal Shah, à Islamabad, une rue sent bon le pain afghan et les brochettes de Kaboul. C'est là que se retrouvent les Afghans qui ont fui l'invasion soviétique, les bombardements américains et les nombreux groupes djihadistes. En 40 ans de crise, le Pakistan a accueilli plus de 3 millions de réfugiés afghans.
Merci à Mathilde Hémy et à Laurent Maketti. Frédéric Ancel, deux choses. Est-ce que, d'une certaine façon, la main du Pakistan est derrière la victoire éclair des talibans? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là et dans ce double jeu qu'a toujours joué le Pakistan?
La main, puis le bras, puis tout le corps du Pakistan. Je rappelle que les talibans sont avant tout du grand clan ethno-confessionnel Pashtun. Et qu'il y a davantage encore de Pashtun au Pakistan qu'en Afghanistan. Et que la longue frontière afghano-pakistanaise est une vieille invention britannique. britannique.
La ligne Durand.
La ligne Durand, exactement, 1893, Jean-Marc Four, exactement.
Et qui était en anglais, contrairement à ce que son nom l'indique.
Voilà. Exactement, absolument. Et que les Pachtounes ne l'ont jamais toléré. Et qu'en Afghanistan, communistes, car l'Afghanistan a été dirigé par les communistes dans les années 70, pro-soviétiques, eh bien, ils étaient considérés comme déclassés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est une espèce de revanche, alors religieuse, oui, si on veut, on peut toujours instrumentaliser le religieux au profit du politique, de ces Pachtounes. Et du côté pakistanais de la frontière, on a affaire à un État, enfin un régime qui, effectivement, est de plus en plus dur, d'abord vis-à-vis de l'Occident, et sans cesse plus lié à la Chine, je pense qu'on pourra y revenir, et qui considère que l'Inde est sa rivale permanente. Et si vous voulez, quand vous savez que les trois principales villes du Pakistan se trouvent à moins de 150 km de l'Inde, et que l'Inde dispose d'une armée beaucoup plus importante, si jamais il devait y avoir une quatrième guerre entre l'Inde et le Pakistan, l'état-major pakistanais a toujours considéré qu'il devait pouvoir rapidement se réfugier derrière. Et derrière, c'est quoi? C'est l'Afghanistan. Donc le Pakistan a besoin, cruellement besoin, d'un pouvoir, j'allais dire à sa botte, en tout cas allié, et là, il n'y a pas mieux que les talibans.
Alors, mais allié, ça veut dire qu'il y a des ficelles qui sont tirées, ça veut dire que, y compris là, il y a une formation de gouvernement. Pendant les manifestations, on a entendu les manifestants dire non au Pakistan, sortez le Pakistan, etc. Est-ce que ça veut dire réellement que on manipule le gouvernement, y compris le gouvernement taliban quand on est pakistanais aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans l'ingérence pure? Est-ce qu'on commence comme ça avec ce gouvernement-là?
Non seulement je parlerai d'ingérence, mais je pense qu'il n'y a pas de gouvernement taliban qui puisse se faire en dehors du Pakistan. En tout cas, de la surveillance pakistanaise. Ça ne veut pas dire que le Pakistan désigne chacun des ministre de ce gouvernement, ça veut dire que on ne peut rien faire sans le Pakistan, d'où viennent bien évidemment les armes et les équipements depuis 20 ans.
Une question subsidiaire avant d'aller en Irak, je repense aux manifestations, à ce qui se disait aujourd'hui à Kaboul, à ce qui se disait dans ces manifestations, à ce que vous venez nous expliquer aussi sur l'ingérence pakistanaise. Certains parlent d'une crainte de guerre civile en Afghanistan aujourd'hui. Vous avez cette crainte ou pas?
Oui, j'ai très clairement cette crainte pour deux raisons, je le dis très rapidement. D'abord, on a bien vu que les Tadjiks au nord, mais beaucoup d'autres clans en réalité ne sont pas nécessairement prêts à subir un gouvernement quasi exclusivement taliban et majoritairement pachtoun. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, rapidement, c'est le social. Est-ce que les talibans, oui ou non, pourront gérer sérieusement, correctement un État? On a vu que dans le monde arabe, il y a eu un printemps pour moins que ça.
Ça va être un bon indicateur justement du degré de contrôle de l'armée pakistanaise et particulièrement de ses services secrets sur les talibans afghans. Parce que le Pakistan n'a pas non plus nécessairement intérêt à ce qu'il y ait une explosion sociale en Afghanistan avec les phénomènes migratoires que ça peut déclencher, etc. Donc il faut que ça reste stable dans l'intérêt pakistanais, vu que c'est l'arrière-plan stratégique par rapport à l'Inde, etc. Ce que expliquait Frédéric Ancel. Est-ce qu'ils ont le même contrôle aujourd'hui qu'ils l'avaient en 1996 et jusqu'en 2001? Question.
Il y a un autre pays qu'on n'a pas le droit de rater, sur lequel il faut qu'on reste assez longtemps même.
France Inter.
11 septembre, ces attentats qui ont changé le monde.
Le 18-20.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. And now our coalition is engaged in securing and reconstructing that country. In this battle, we have fought for the cause of liberty and for the peace of the world.
La liberté et la paix dans le monde, dans ce discours sur le porte-avions Lincoln du président Bush. Nous sommes le 1er mai 2003. Et à quoi ressemble l'Irak aujourd'hui? Eh bien, direction Bagdad, où Lucille Wasserman nous dresse le portrait d'un pays, vous le savez, gangréné par le terrorisme, qui deviendra aussi le berceau de Daesh. On y revient tout de suite.
Sadr City, le 19 juillet dernier. Dans ce quartier chiite, en périphérie de Bagdad, un kamikaze vient de déclencher sa ceinture explosive dans un marché bondé à la veille de l'Aïd. Venez tout de suite, venez, crie cet homme à un groupe de femmes et d'enfants paniqués. Ce jour-là, plus de 35 personnes sont mortes dans l'explosion, dont le fils et la femme d'Emma Jouad, 40 ans. Aux côtés de son beau-père, assis sur un canapé de leur appartement très sommaire, il peine encore à contenir sa tristesse.
Ma femme vivait avec moi depuis 17 ans. C'était la mère de mes enfants. Elle faisait entièrement partie de moi. Ces jours ont été un désastre, un cataclysme. Oh Dieu.
Derrière lui, une photo de son fils orne les murs du salon. En blouson bleu, il se tient droit, tout sourire, dans un sanctuaire chiite. Il s'appelait Riyan et n'avait que 5 ans. Fala, le grand-père, ne calme pas sa colère.
L'ennemi nous combat sans conscience, comme un lâche. Il cible les quartiers bondés, comme les marchés, où se rassemblent femmes et enfants.
Cette année, au moins 3 attentats similaires ont meurtri le cœur de Bagdad. Un chiffre loin des centaines d'attaques qu'il pouvait y avoir en 2014, à l'apogée du groupe État islamique, ou encore en 2006, avec Al-Qaïda. Mais les terroristes continuent d'opérer, en particulier hors des grandes villes, explique Saban Aman, le porte-parole des forces antiterroristes.
Aujourd'hui, ce sont surtout de petits groupes dans plusieurs régions en Irak, en particulier à l'ouest de la région d'Anbar. Ils se cachent aujourd'hui dans des régions difficiles d'accès, comme les régions montagneuses.
Cet Irakien d'une cinquantaine d'années, installé derrière son bureau, affirme que les forces antiterroristes ont arrêté l'année dernière 400 hauts responsables du groupe et tué 200 autres, notamment avec l'aide de la coalition internationale. Cette collaboration n'a toutefois pas vocation à durer indéfiniment, dit-il.
Nous devons augmenter nos capacités d'action pour être sûr qu'on peut continuer notre mission sans la coalition. Et nous sommes aujourd'hui préparés en termes de logistique, de morale de nos troupes et d'équipement, et nous pouvons dépendre de nous-mêmes.
Une confiance en l'avenir que beaucoup d'habitants ne partagent pas. Plusieurs familles originaires de la région de Ninive, où Daesh s'est installé en 2014, restent encore installées dans des camps de déplacés. L'un d'entre eux, à Bagdad, abrite une centaine de familles chrétiennes. Liliane, 36 ans, cheveux tressés, y vit avec ses 3 enfants depuis 2015.
C'est stable pour l'instant, mais politiquement c'est très compliqué. Beaucoup de groupes politiques et militaires se disputent la zone. Donc on se dit que ce n'est pas totalement sécurisé et surtout que Daesh pourrait revenir à tout moment.
Lorsqu'on lui demande si l'amélioration de la sécurité en Irak lui redonne un peu d'espoir, elle sourit et rappelle un vieux dicton.
Après le calme, la tempête, n'est-ce pas? En Irak, on s'est habitué. Aujourd'hui, c'est la calmie et puis demain, une tempête arrive. Alors non, je ne crois pas en cette stabilité. Et quand je vais quelque part, je me dis toujours que je ne reviendrai pas.
Un pessimisme provoqué par 20 ans de guerre, de conflits et de terrorisme que l'invasion américaine en 2003 n'a pas su contenir, bien au contraire.
Lucille Wasserman pour le reportage. Frédéric Ancel, la plus mauvaise lecture du monde de ces 20 dernières années, ça a été probablement cette histoire d'Irak en 2003. Qu'est-ce qui, je le disais, le chaos, Lucille le raconte très bien, la corruption, la gangrène, Daesh qui vient s'y greffer aussi. Qu'est-ce qui peut sauver l'Irak aujourd'hui et surtout est-ce que Kaboul a de quoi inquiéter encore plus les Irakiens ?
Je ne suis pas certain qu'on puisse faire un parallèle complet. L'Irak a été créé de toutes pièces, là aussi, hein, par les Britanniques en 1932. Les Kurdes et les chiites, je vais peut-être surprendre certains de vos auditeurs, étaient tout à fait satisfaits de l'intervention américaine. Et aujourd'hui encore, ils considèrent que le pire, ça n'a pas été ces 15 dernières années, mais c'était le règne de Saddam Hussein, qui en a assassiné par centaines de milliers dans des conditions épouvantables. Je pense qu'en Irak, vous avez trois consciences, on va dire infranational, il y a la conscience nationale irakienne est extrêmement faible, comme en Afghanistan pour le coup, mais vous avez une équipe gouvernementale constituée à la fois ou qui respecte à tout le moins la présence de Kurdes, de chiites et de sunnites, et surtout si une classe politique, c'est facile à dire comme ça, respecte le fondamental selon lequel en principe l'intérêt collectif doit primer sur l'intérêt personnel, bref, s'il y a moins de corruption, pour parler très très concrètement, sachant qu'il y a comme beaucoup de pétrole en Irak, alors on peut aller vers un plus et un mieux. Et entre parenthèses, ce plus et ce mieux, ils existent. C'est pas génial, hein, mais c'est quand même mieux qu'il y a encore une dizaine d'années. Bah, écoutez, Daesh a été défaite. Et j'ajoute un point, si vous permettez. Inversons le postulat. Si la guerre américaine était simplement foireuse, je crois que c'est totalement admis et fondée sur des mensonges. Ouais. En revanche, je ne suis pas d'accord pour dire que ça a été le béaba, l'intervention américaine a été le béaba de la catastrophe en Irak. En réalité, c'est un État qui, depuis 1980, est en guerre. Et en 80, il n'y a pas d'Américains, il y a Saddam Hussein qui attaque l'Iran et 10 ans plus tard qui attaque le Koweït. Donc, si vous voulez, c'est malheureusement, on a affaire à une classe dirigeante dans un certain nombre de ces pays, notamment en Irak. C'est pas vrai pour tout le monde arabe. Regardez ce qui se passe au Maroc. Demain, les élections législatives, ça se passe mieux. Non, en Tunisie, on avance vers la démocratie. On essaye en tout cas.
C'est
très compliqué. Au niveau des textes, c'est mieux qu'il y a une dizaine d'années.
En Libye voisine aussi.
Aux Émirats, c'est juste pour vous dire que le monde arabe, de manière générale, ne doit pas être pris comme une espèce d'ensemble calamiteux ou devant subir de toute éternité toute calamité. C'est ça que je veux vous dire. Donc, que les Américains aient fait n'importe quoi à l'époque de Bush, c'est acquis. Que aujourd'hui la majorité ou une majorité d'Irakiens souhaitent le départ total de la coalition occidentale qui est encore présente d'une manière ou d'une autre, économique, militaire, ça j'en doute fort.
La grosse différence entre l'Irak et l'Afghanistan, c'est qu'en Afghanistan, vous avez quand même ce groupe des talibans en pachtoun qui ont la capacité sociale et militaire de dominer nationalement. Ça ne veut pas dire de s'imposer partout. Vous n'avez pas ça en Irak, c'est-à-dire c'est ce que rappelait Frédéric Ancel. Vous avez quand même trois groupes, sunnites, chiites et kurdes, qui en plus ont un peu chacun leur territoire quand même géographique. Et on ne sent pas qu'il y ait l'un qui soit capable de s'imposer aux autres comme ce qu'on voit en Afghanistan. C'est quand même une différence majeure. Après, c'est la pagaille, il y a la corruption, ce que vous rappelez, mais c'est une différence absolument majeure.
Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, puisqu'on essaye de jouer aussi sur les comparaisons, sur ce qui s'est passé il y a 20 ans, est-ce que l'un des marqueurs de l'Irak, au fond, là, pour le coup, pour nous, la communauté internationale, ce n'est pas la fin d'un monde unipolaire, au fond, où peu ou prou, chacune des grandes puissances, nous y compris, et y compris les Russes d'ailleurs à ce moment-là, qui sortent de leur période URSS. Donc il y a eu toute cette période où, au fond, tout le monde suivait les Américains les initiatives qui étaient les leurs. Est-ce que l'Irak ne marque pas la fin de ça, au fond ? Le fait que les Américains ne sont plus suivis, c'était notre cas par exemple de ne pas le faire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de cette envergure-là qui se passe dans la communauté internationale après l'Irak ou pas ?
Alors je ne le crois pas parce que ces derniers mois, c'est très frais, c'est très récent, c'est presque hypothétique ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être trop tôt pour l'affirmer. Mais en tout cas, ces derniers mois, on voit se constituer, mois après mois, dans l'Indo-Pacifique, que j'évoquais tout à l'heure, qui sera la grande zone géopolitique de demain, qui l'est déjà carrément et aujourd'hui, avec en ligne de mire la Chine, on voit déjà, mois après mois, des États de la région demander aide et assistance politique, économique ou militaire aux États-Unis. Alors, si vous voulez, c'est quand même très intéressant, parce que chacun voit midi à sa porte. Aujourd'hui, vous demandez au Vietnam communiste quand même, vous demandez aux Philippines, bien évidemment, le Japon naturellement, Corée du Sud, etc. S'ils souhaitent que les Américains, décidément très faibles en termes de crédibilité à cause de l'Irak et l'Afghanistan, se retirent de la région, je suis absolument convaincu, et on le voit d'ailleurs tous les jours, mais jusqu'à l'Inde et l'Australie d'ailleurs, que ces États-là demandent plus d'Amérique. Pourquoi ? Parce que, stratégiquement, leur épouvantail, c'est pas du tout les Américains, ce sont les Chinois. Et les seuls qui, encore aujourd'hui, dans le monde, seraient ou sont capables, pensez bien évidemment à Taïwan, de s'opposer à une éventuelle intervention massive chinoise, fantasmée ou réelle, on verra bien, dans la région, ce sont les Américains.
Et quelle est la réponse américaine aux demandes qui sont apportées, vous le disiez, par ces pays-là?
Mais oui, avec joie. Oui, avec joie. Aujourd'hui, les États-Unis se redéploient, à la fois sur le plan, je le répète, diplomatique, économique et militaire. Une grande partie des soldats qui viennent quitter de Kaboul ne vont pas aller, glander dans une base à Miami, mais ils vont repartir dans l'Indo-Pacifique, où les Américains disposent de plus en plus de bases. Et là encore, on a un mouvement pivot. Du coup, celui qui avait raison, qui a impulsé ce phénomène, c'est vraiment Barack Obama, avec ce fameux pivot vers l'Indo-Pacifique. Et la réponse américaine, c'est oui à l'Australie, c'est oui à l'Inde, c'est oui à plus de soutien militaire à Taïwan, au Japon, à la Corée du Sud, et bientôt, vous allez le voir, au Vietnam. Peu rancunier quand même. Donc si vous voulez, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est pas tant de savoir, me semble-t-il, si les Américains ont vraiment fait n'importe quoi en Afghanistan il y a encore quelques jours, quelques semaines, ou en Irak il y a quelques années, mais c'est de savoir si oui ou non, moi étant directement concerné par un nouveau géant, par un nouveau prédateur, comme l'appellerait peut-être François Hesbourg, à savoir la Chine, est-ce que je dois aller voir l'Amérique? Ben oui, parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'autre grande puissance qui peut m'assurer cette sécurité dans l'Indo-Pacifique.
Jean-Marc ?
Mais donc je crois en revanche que cette décennie, ou cette double décennie terroriste et antiterroriste, a d'une certaine façon légitimé les pouvoirs autoritaires de type Russie-Chine. Pourquoi ? Parce que ils peuvent dire aux démocraties occidentales, vous voyez, on est beaucoup plus efficace que vous sur ces trucs-là, vous savez pas faire. D'ailleurs, la meilleure preuve que vous savez pas faire, c'est que vous-même, vous vous êtes mis à limiter les libertés publiques. Donc nous, on sait faire, on a eu droit aux Tchétchènes dans les années 90 avec les Russes, etc. Là, les Chinois nous disent les Ouïghours sont des terroristes, et ils sont tranquilles, si j'ose dire. Vous voyez, ça les a légitimés dans leur attitude de répression des libertés publiques. C'est un phénomène tout à fait différent, qui n'est pas incompatible avec ce que vient de dire Frédéric Ancel, mais je crois que c'est quand même aussi un phénomène important.
Allez, je voudrais qu'on avance et qu'on se tourne vers un autre pays. On était en Irak, on était en Afghanistan, il y a l'Afrique aussi, où d'autres poches de terrorisme sont nées, y compris de l'éclatement d'ailleurs de certains groupes terroristes ou de franchises qui ont été créées ici et là. On évoquait la Libye tout à l'heure, la Syrie évidemment, autour du lac Tchad avec Boko Haram. Au Sahel, où nous sommes, comme nous le savons, le Mali, d'où revient Omar Waman. Et si la France n'a aucune intention de se retirer du Sahel aujourd'hui, elle s'apprête à une réorganisation de Barkhane, une baisse d'effectifs, la fermeture de 3 bases aussi au nord du Mali, à Bamako, un sujet qui divise entre ceux qui veulent voir partir les Français, ceux qui craignent ce départ et voient un scénario justement à l'Afghan.
À Bamako, la population se débat dans une grande pauvreté, comme assommée par les crises que traverse le pays. 2 coups d'État en moins d'un an, des djihadistes qui gagnent chaque jour du terrain et une guerre sans fin. Adam Diko, militante des droits de l'homme et activiste notamment sur les questions féministes.
Quand on a vu la situation en Afghanistan, on a été envahi par un sentiment de peur. Vous savez, le Mali vit à peu près les mêmes situations que l'Afghanistan. C'est-à-dire un pays complètement fragilisé, un pays sous assistance. Voyant l'état actuel de l'armée malienne, la fragilité de nos institutions, on risque d'être envahi en moins de 24 heures, comme on l'a déjà vécu à Tombouctou, à Gao, à Kidal. Donc, c'est rappeler toujours de pourquoi nous avons fait l'intervention. Si cet argument est toujours valable, je pense que c'est ce qui doit conduire les décisions politiques, notamment les décisions du président Emmanuel Macron.
Car les raisons qui ont poussé la France à intervenir militairement en 2013 à la demande de Bamako sont toujours là. La menace djihadiste plus que jamais présente, l'armée malienne sous-équipée et mal entraînée. Mais ce qui a changé, c'est l'apparition d'un sentiment anti-français contre l'opération Barkhane, une hostilité incarnée par un homme, Oumar Mariko, et son parti politique anticapitaliste. Il rejette en bloc la comparaison avec l'Afghanistan.
Le scénario afghan, je pense honnêtement que c'est pour nous faire davantage peur. On n'a pas plus mal aujourd'hui qu'on aurait mal demain. La France doit partir le plus rapidement possible. Ça fait 9 ans qu'ils sont là, le résultat c'est le désastre. La solution au Mali, comme en Afghanistan, n'est pas militaire, elle est politique.
Mais la politique au Mali se résume à une junte militaire au pouvoir qui a dissous l'Assemblée nationale. L'avenir est donc très incertain, alors que le djihadiste malien Iyad Agrali, chef du JNIM, le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, branche sahélienne d'Al-Qaïda, a salué la victoire des talibans en Afghanistan. Raison de plus pour tirer les leçons de l'échec américain, selon Thiébilé Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères, alors que Paris s'apprête à fermer ses bases de Tombouctou, Tessalit et Kidal.
Je crois que les événements d'Afghanistan imposent un réexamen des plans qui ont été élaborés avant la chute de Kaboul. Parce que ce qui s'est passé en Afghanistan est de nature à galvaniser les groupes armés djihadistes et au Sahel en particulier. Ce qui a été envisagé avant Kaboul pourrait peut-être être revu en attendant l'installation d'autorité légitime issue d'élections à Bamako.
Et ces élections présidentielles sont prévues au mois de février prochain, un délai que de nombreuses personnalités du pays appellent à mettre à profit pour dialoguer, négocier avec les groupes djihadistes maliens pour mettre fin à la guerre, un dialogue dont la France ne veut surtout pas entendre parler, ce que déplore Mahmoud Diko, l'imam le plus écouté du pays.
Je l'ai dit, entre maliens, il faut nous laisser chercher à faire revenir ces gens-là que nous connaissions, qui sont de nôtres, qui sont nos enfants, qui sont nos frères. Nous allons leur dire que ce qu'ils sont en train de faire est une aventure sans issue.
Et cette menace qui consiste à dire, si vous discutez avec eux, Emmanuel Macron l'a dit, je me retire.
Mais c'est ce qu'on n'a pas compris. Nous voulons seulement la paix. C'est le Mali, ce n'est pas la France. Il faut que vraiment ils se mettent ça dans la tête.
Et cette question du dialogue avec les djihadistes maliens oppose Paris et Bamako depuis très longtemps, deux positions irréconciliables à ce stade, alors que le Mali plonge chaque jour davantage dans le chaos.
Frédéric Ancel, est-ce que le Mali et l'Afghanistan français et inversement ?
Je ne le crois pas. Je pense que l'intervention était nécessaire et légitime. Légitime parce que la France a été appelée très officiellement par Bamako. Et j'ajoute, pour ceux qui l'auraient oublié, par les États alentours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça aurait été la première fois qu'une capitale musulmane eût été capturée, enfin conquise, par des djihadistes. Mmh. Ça, c'est le deuxième point.
Oui, mais que le démarrage soit légitime... Que le démarrage soit légitime, c'est une chose. Voilà. D'ailleurs, c'était le cas en Afghanistan aussi.
C'est ça.
Et maintenant.
C'est juste. Non, mmh. ce que sous-tend votre question, c'est effectivement, est-ce qu'il faut rester et s'il faut partir, dans quelles conditions ?
Et comment ?
Et je pense que le tandem Macron-Le Drian a raison. À partir du coup d'État de ces tout derniers mois, enfin il y a eu deux coups d'État, mais le dernier pose vraiment problème, ça a été très bien dit dans votre reportage, l'Assemblée est dissoute. Enfin bon. Donc là, l'agenda, il est différent. L'agenda de la junte en place n'est plus du tout le même, et si ces gens-là veulent négocier et faire des affaires, parce que c'est aussi ça derrière, avec les djihadistes contre lesquels nous luttons, nous, Français, Européens, démocrate de manière générale, d'ailleurs dans le monde, mais c'est évidemment plus possible. Et après se pose la question de savoir quand et comment partir. Il y a bien un moment où il faudra partir. Mais j'insiste, c'était important d'y aller. Hein. J'inverse toujours, j'essaye toujours d'inverser le postulat. Si on n'y était pas allé, que le Mali était tombé et que les États alentours étaient tombés, où en serait-on aujourd'hui ?
Est-ce qu'on doit, l'un des intervenants dans le reportage d'Omar rappelle cette espèce de chantage même qui a été dit, s'il faut discuter, on s'en va, nous. Alors est-ce que c'est vraiment ces termes-là qu'il faut qu'on discute, nous, au Mali, avec les Maliens, et encore une fois, est-ce qu'il faut y aller exactement de la même manière? C'est pour ça qu'on fait la comparaison. Les Américains se sont mis à discuter assez vite, finalement, avec les talibans. Il va falloir qu'on se résoude à faire exactement la même chose, non?
En réalité, je vais vous dire,
discuter... Ou on le fait déjà, peut-être, cela dit.
Alors, sans vouloir paraphraser Pierre Desproges, discuter de tout, oui, pas avec n'importe qui. C'est-à-dire que, non, mais ça, et là, je le paraphrase, c'est l'inverse. C'est-à-dire que discuter avec des djihadistes, non, mais à la limite, pourquoi pas, mais sur quoi ? Sur quoi ? À partir du moment où le projet, c'est d'établir un califat extraordinairement violent contre la France, l'Europe, et de manière générale, contre la population malienne qui, quand même, a subi, il y a quelques années avant que la France arrive, et notamment à Tombouctou, qu'on va quitter maintenant, la réponse est évidemment non. Après, le problème fondamental, je le dis d'un mot, c'est que la France a été seule, résolument, désespérément seule, et ça pose la question, qu'on va pas aborder maintenant, on n'a pas le temps, ça pose la question de l'Europe puissance, oui ou non.
Jean-Marc, rapidement.
Donc, juste en un mot, si on fait le bilan des 20 ans, le sujet Afrique-djihadisme ne se limite pas au Nord-Mali ou à la zone des trois frontières avec Burkina Faso et le Niger. Hein. C'est la zone sahélienne globalement, c'est maintenant le golfe de Guinée qui est menacé, et c'est de l'autre côté, on le voit pas vu d'ici parce que ça nous intéresse pas, c'est loin, mais c'est la Somalie, comme c'est toujours le bazar, avec des chebabs qui sont assez proches des talibans, pour le coup, c'est un peu le même type de logiciel, et c'est maintenant le Mozambique. Donc c'est beaucoup plus large le problème djihadisme en Afrique que le seul Mali.
En guise de conclusion, puisqu'il nous reste une toute petite minute, Frédéric Ancel, c'est pas la fin de cette émission, il y aura vos questions tout à l'heure dans le téléphone sonne. Encore une fois, pardon de cette question un peu, mais est-ce qu'il vous arrive de penser à un monde sans 11 septembre et la manière dont il évolue aujourd'hui ? Est-ce qu'on se dit finalement, bien sûr, oui, ça a été un marqueur, à un moment ça a été important, mais que finalement ce que nous vivons aujourd'hui, y compris dans le développement de ce qu'on vient d'évoquer, existerait de toute façon, était dans les préparatifs, dans les gènes, dans quelque chose ?
Je le pense, je crois beaucoup plus aux tendances lourdes qu'à l'histoire bataille, quand même telle qu'on l'enseignait au 19e et au début du 20e siècle. Les temps longs de Brodel et les tendances lourdes. Je pense que pour l'essentiel, je dis bien pour l'essentiel, la planète géopolitique d'aujourd'hui ressemblerait à celle qu'elle est s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, et de toute façon il y aurait eu autre chose. Mais bien sûr, on ne refait pas l'histoire.
Non, on ne refait pas l'histoire. On va refaire un petit peu ces 20 ans quand même. Je vous remercie mille fois, Frédéric Ancel. Vraiment, merci de votre passage chez nous.